Bonjour mes frères et sœurs, amis. Ils sont heureux les gens qui peuvent chanter ce qu'ils viennent, vivre ce qu'ils viennent de chanter. Vous ne croyez pas? Pardon Seigneur, pardon. Alors on va lire un homme qui a dû, hélas, faire de tristes expériences pour en arriver là. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, une des histoires les plus connues de la Bible, mais qui nous indique ce qu'il faut faire pour venir ou revenir à Dieu et se trouver dans une condition bénie. Il y a quelqu'un qui veut être béni? Est-ce que quelqu'un veut être dans la grâce de Dieu? Quelle est la plus grande bénédiction pour un homme? Tiens, c'est quoi pour vous le summum du bonheur? Allez, vous allez m'aider à faire la prédication, tiens. Comment? Avoir la vie éternelle, mais ici-bas. La paix. Ouais, c'est sûr que... La paix, mais pour avoir la paix, il faut obtenir le pardon. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous n'avez pas le pardon. C'est impossible. Alors, c'est des expériences très, très passagères. Luc, chapitre 15, et pourtant, c'est un garçon, c'est Jésus qui parle. Hein. C'est un garçon qui a fait un mauvais choix, comme tant de gens le font aujourd'hui. Des mauvais choix. Luc, chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, « donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. » Ton frère était mort. Il était mort, son frère? Est-ce qu'il était mort? Mais non. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Que cet homme, ce jeune homme, il était mort. Il n'était pas mort, il faisait la fête. Il faisait la fête avec les copains, les copines. Il faisait la fête. Et pourtant, Jésus va dire qu'il était mort. Cette histoire, elle est donnée par Jésus. Elle nous est donnée pour montrer qu'on peut faire de très mauvais choix, même quand on est chrétien. Elle nous est expliquée ailleurs, dans ce même chapitre, il y a d'autres paraboles qui indiquent que les gens sont perdus. Que les gens sont perdus et que Dieu les cherche. Mais que les gens, même une fois qu'ils sont sauvés, ils peuvent commettre l'erreur de repartir. Pourquoi? parce que Dieu nous laisse libres. Cet après-midi, vous étiez libre de venir écouter la parole de Dieu, libre de faire une expérience avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire une expérience avec Dieu ? Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ? Est-ce que vous croyez qu'il vous sera fait selon votre foi ? Eh oui, il vous sera fait selon votre foi. Ça veut dire que n'importe quelle situation qui vous préoccupe, ben vous pouvez voir le Seigneur agir. Toute la parole de Dieu nous enseigne qu'il nous sera fait selon notre foi. Il faut combien de personnes pour que Dieu bénisse ? Dans une église, il faut combien de personnes ? Combien de personnes doivent être rassemblées pour que Dieu bénisse ? Alors, dites-moi, 2 ou 3 ? Est-ce que quelqu'un de seul peut être béni dans sa chambre ? Oui, 2 ou 3, parce que la Bible dit, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, le Seigneur est au milieu d'eux. C'est extraordinaire, le Seigneur est au milieu des gens qui se rassemblent. Pourquoi ? Parce que nous devons comprendre que lorsqu'un homme se rassemble avec un chrétien, des chrétiens se rassemblent ensemble, il y a l'image de l'Église, donc de la bénédiction. Mais quand un homme est tout seul, il peut entrer dans sa chambre, c'est écrit quelque part. Il n'y aurait pas quelqu'un qui nous aurait dit que si un homme prie, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Ben, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il ferme la porte et qu'il prie. Qui prie qui ? Son père qui voit dans le secret. Et ce père qui voit, eh bien, te rendra en fonction de tes prières. Donc qu'on soit seul, c'est bien. Si on est plusieurs, c'est bien. Si on est nombreux, c'est bien. Ben, tout est bien en vérité. Tout est bien à partir du moment où on réalise que le Seigneur est au milieu de nous. Que le Seigneur est avec moi, que je sois là, que je sois dans ma chambre, que je sois dans ma voiture, le Seigneur est omniprésent. Et nous voyons dans la parole de Dieu des hommes qui ont fait des mauvais choix. Et là, nous voyons un jeune homme. Pourtant, il était avec un père qui représente Dieu, un père qui était bon. Et vous voyez, il ne l'a pas laissé, il a laissé faire. Ça nous fait mal au cœur quand on voit tant de gens rétrogradés. Oui ou non ? Des chrétiens, des gens qui étaient des pécheurs, qui ont fait une expérience avec Dieu, qui ont été bouleversés, qui étaient dans le péché, et puis qui refont le choix de retomber dans la misère. C'est incroyable ça. Des gens qui ont été délivrés et ils retombent dans leur travers, des gens qui ont été libérés et qui retombent dans leurs problèmes, etc. Parce que Dieu nous laisse libre. Dieu nous laisse libre. Dieu ne force personne. Pendant plus de 100 ans, Noé a prêché l'évangile au travers de son arche. Combien sont rentrés dans l'arche ? Ça fait pitié vraiment. Vous vous rendez compte ? Pendant 100 ans, il a construit une arche. Personne n'a été interpellé. Et pourtant, c'était un homme droit, un prédicateur de la justice, un homme qui, chaque coup de marteau qui faisait, qui donnait, rappelait que la grâce de Dieu était là, que le jugement allait venir, et tout le monde riait. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Combien y a-t-il de chrétiens, de véritables chrétiens, proportionnellement au nombre d'habitants qu'il y a sur la terre ? Donc, ce jeune homme, il s'en va. C'est dommage parce qu'on le voit souvent. Il faut en arriver à se retrouver dans la misère. Qu'est-ce qu'il est dit au verset ? Au verset 14, il commença à se trouver dans le besoin. Est-ce que c'est bien ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'on voit des gens qui décrochent vraiment. Et bien c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Des gens qui se trouvent vraiment dans la misère totale, ils commencent à réaliser certaines choses. Nous on dit Seigneur, garde-les, épargne-les. Mais vous savez, le Seigneur il sait ce qu'il faut à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui est en train de dégringoler. C'est peut-être la meilleure expérience qu'il puisse faire. C'est pour ça, ne vous préoccupez pas trop de l'état des pécheurs, préoccupez-vous de la puissance de Dieu en priant de tout votre cœur. Peut-être que vous avez un enfant qui est en train de suivre le même chemin. Vous avez lu le témoignage de saint Augustin ? Bon, vous allez me dire, ça c'est vieux, ça, c'était au 3e siècle. Mais si vous avez lu les écrits de saint Augustin, c'était à l'époque où l'Église catholique n'était pas empêtrée dans l'idolâtrie comme elle est aujourd'hui, dans les fausses doctrines, c'était vraiment un homme de Dieu. Je vous assure, c'était un homme de Dieu. Et ce jeune homme, quand il habitait dans un petit village en Italie, dans un tout petit village, et un jour il a dit à sa mère, « Maman, je m'en vais à Rome pour travailler. » Et sa mère a été folle. Elle a dit, « Il est déjà dans les ténèbres, il va partir dans une ville complètement corrompue. » Et bien il a tellement vu de corruption, ce jeune homme, que ça l'a poussé à se jeter à genoux, il a crié à Dieu, et Dieu l'a sauvé. Et c'est devenu saint Augustin. Je vous assure, franchement, moi j'ai lu ses livres, je vous assure que c'est un homme qui a vraiment rencontré Dieu. Comme quoi, voyez, il faut souvent en arriver à cette dégénérescence. Mais ce qu'il y a de merveilleux, ce n'est pas tellement l'état dans lequel on est tombé. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'à un moment donné, on peut revenir au Seigneur. C'est pas beau ça? Venir ou revenir? Venir, qu'est-ce que c'est le mieux? Venir à Dieu ou revenir à Dieu? Qu'est-ce que c'est? D'après vous, comment? Ouais, le mieux c'est de venir une fois pour toutes et de rester attaché. Mais vous savez, le frère aîné, il fait partie de ceux qui n'ont jamais rétrogradé officiellement. Et vous avez vu dans quel état d'esprit il était? Que Dieu nous garde, quand on est dans l'Église, de devenir un peu comme ses frères aînés, tout le temps en train de râler. Quoique vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Mais il y a des gens pour qui ils sont tout le temps en train de râler. Vous ne connaissez pas ça ici? Non, vous connaissez, c'est bien. Il y a des gens, vous discutez avec eux, la première chose qu'ils font, ils râlent. Ils se lèvent, ils râlent. Il pleut, ils râlent. Il fait trop chaud, ils râlent. Les frites sont un petit peu trop salées, ils râlent. Les frites sont un petit peu trop froides, ils râlent. Si elles sont trop chaudes, ils râlent. C'est des râleurs. Je vous fais rire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors que moi, je dis à tous ces gens, vous devrez partir 15 jours en Syrie. 15 jours dans la Ghouta orientale. 15 jours, ça vous suffira. Voilà, vous vivez avec la population et vous allez voir comment les frites sont bonnes après quand vous reviendrez. Mais je crois qu'on devrait faire attention, mes frères et sœurs. On devrait faire attention et remercier Dieu en toutes choses. Je ne sais pas ce qui a poussé ce jeune homme à faire ce choix. Mais Jésus nous a laissé cette histoire pour nous montrer une chose en tout l'état, que même si notre Père est plein de miséricorde, on peut l'abandonner. Et qu'il faut faire attention. Il vaut mieux, oui, ne jamais avoir à revenir. Mais on peut revenir, que le Seigneur soit béni. On peut revenir et nous voyons là un garçon qui est en train de souffrir. Il est là, il se demande ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Il ne peut même pas manger ce que mangent les cochons. J'ai entendu quelqu'un qui disait, c'est quoi les caroubes? Eh bien, c'est le fruit du caroubier. Voilà. C'est une espèce de... Vous savez les fèves, là? Vous savez les fèves, voilà, c'est un truc comme ça avec des graines dedans. Voilà. Vous regarderez, c'est les cochons qui les mangent, mais il y en a qui les mangent aussi. Il y a plein de graines dedans. Et lui, il est là, et il souffre. Vous savez, quand on est dans le monde, et qu'on souffre, voilà ce qui se passe lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur. Et pourtant, il y a un Dieu qui est prêt à nous accueillir. Vous avez remarqué dans cette parabole que le père, il ne va pas chercher le fils. Ça ne vous a jamais étonné dans ces paraboles? La brebis perdue, c'est le berger qui va chercher la brebis. Là, dans cette parabole, le père ne va pas chercher la brebis perdue. Vous savez, il y a une différence. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des chrétiens qui ont abandonné Dieu. C'est à eux de revenir. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. C'est à eux de se repentir et de revenir à Dieu et de dire oui, j'ai fait le mal. Je me suis trompé. Est-ce qu'on peut se tromper? Moi, j'ai connu ici un frère qui a rétrogradé pendant 20 ans. Et un jour, une nuit, il a rêvé qu'il fallait qu'il revienne. Il est revenu et il a été béni. Il me dit, j'ai été ridicule. J'ai perdu 20 ans de ma vie. 20 ans. Oui, enfin, 20 ans, c'est rien. Il y a des gens qui ont perdu leur éternité. Voyez. Donc, ce garçon, il prend une décision. Et cet après-midi, voyez, c'est ça la grâce. C'est savoir, au verset 17, il nous est dit que ce garçon, il est rentré en lui-même. C'est beau quand on rentre en soi-même. C'est déjà qu'un travail merveilleux s'est fait. Vous savez qu'il y a des textes dans Ésaïe où il est dit qu'à cause des idoles, les gens ne peuvent pas rentrer en eux-mêmes. C'est écrit dans Ésaïe. Ils ne peuvent pas rentrer en eux-mêmes, tellement ils sont aveuglés par les idoles, ils ne peuvent pas rentrer en eux-mêmes. Cet après-midi, c'est une grâce si vous pouvez dire, mais moi, je veux rentrer dans moi-même. Je veux faire une expérience. J'ai besoin tout à nouveau de cette belle robe. Vous avez vu le programme de ce garçon? Bon, il calcule son retour. Ça vous est arrivé déjà de préparer vos phrases? Est-ce que ça vous est arrivé dans un entretien? Est-ce que ça vous est arrivé? Je prépare mes phrases, comment je vais lui parler? On le voit, les jeunes garçons, quand ils sont amoureux, vous savez, ils préparent leurs phrases. Je vais lui dire que je l'aime. Comment je vais lui dire? Non, mais c'est bien, c'est pas interdit, ça, de préparer ses phrases, non? Hein, c'est pas interdit. Et lui, il est soucieux, il veut rencontrer son père, donc il prépare ses phrases, et il dit « Je me lèverai, je dirai ceci à mon père, j'ai péché, je suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il prépare son discours, il veut que ça se passe bien avec son papa, et c'est important que ça se passe bien avec Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est sur la terre qu'il faut préparer cet entretien. Donc, il prépare son discours. Vous avez vu qu'il n'a pas pu le faire, son discours? Vous l'avez vu? Il n'a pas pu le faire. Bon, il se lève. C'est l'image d'une décision. Vous savez, quand on se lève pour prendre une décision, ce n'est pas le fait de se lever. Tout à l'heure, vous allez vous lever pour rentrer chez vous, je pense. Mais ce n'est pas pour ça que vous prenez des décisions. Dans la Bible, quand il dit « Anne se leva », « Il se leva », « Ils se levèrent », ça veut dire... J'ai pris une décision. Je prends la décision d'obéir. Je prends la décision de me repentir. Je prends la décision de me convertir. Je prends la décision de faire telle et telle chose. Et je sais que le Seigneur m'aidera. Donc, il prend la décision. Son père court vers lui. Vous ne trouvez pas que ça merveilleux? Que nous avons un Seigneur qui vient vers nous. Là, il y a l'image. C'est Jésus qui parle. Hein. C'est une image, bien sûr, qui est très, très, très poétique. Mais en vérité, ça nous parle de ce que Jésus a fait quand il est venu du ciel vers nous. Ce que Dieu a fait lorsqu'il a décidé de venir sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Dieu le Père, qui est venu en Jésus-Christ, il a couru vers nous, oui. Oui, il a couru vers nous, croyez-moi. Et nous montrer, manifester son amour. Qu'est-ce qui se passe? Il se jette à son cou, il l'embrasse. Alors il commence ses phrases qu'il a préparées. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il ne peut pas finir son discours. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alors on pourrait peut-être même s'arrêter là cet après-midi. Apportez vite la plus belle robe. Je ne sais pas, vous aimez les beaux habits? Vous aimez les beaux habits ou non? Oui? Les belles robes. Il y a des beaux habits, hein, franchement. Vous aimez le blanc? Vous aimez le blanc? Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Bon, dans le ciel, on sera parfait. Mais quand même, la Bible parle de ceux qui ont préparé leur vie. Les chrétiens qui se préparent. On peut le lire, ce texte. Il y a des hommes qui se préparent. C'est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, il est parlé d'un rendez-vous. Là, il y avait un petit repas avec un veau gras qui a été tué. C'est sa faute, après tout. Il n'avait pas qu'à être gras, ça c'est sûr. Parce qu'après tout, hein. Mais il avait qu'à manger moins. Apocalypse 19, verset 7. Regardez. Il y a des gens sur la terre qui se préparent. Ce jeune homme, il avait mal tourné. Mais il a été intelligent. Quand il a vu que ça se passait avec les cochons, il a dû se dire, hop, hop, il faut que je revienne à la maison. Je ne sais pas où vous en êtes, mais le Seigneur, il le sait. Le frère aîné, il n'était peut-être pas avec les cochons, mais il était quand même pas mal amoché. Et lui aussi avait besoin de se préparer, car il était râleur quand son frère est revenu. Apocalypse 19, c'est un livre extraordinaire qui nous parle de ce qui va arriver. C'est une prophétie entière, le livre de l'Apocalypse. Et là, c'est vraiment la fin quand on va se préparer à partir pour l'éternité dans le ciel. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je ne sais pas, vous étudiez l'Apocalypse? Est-ce que vous étudiez? Non? Regardez dans... Là, c'est quand même... ça doit être de belles robes, ça. De se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Ça, c'est la robe pour ceux qui se sont préparés. Pendant la grande tribulation, pendant ce temps où le dictateur va s'emparer de toute la terre et imposer sa dictature, il y a des gens qui vont se convertir.
Regardez, dans l'Apocalypse au chapitre 7, ils vont être aussi revêtus, mais ce n'est pas les mêmes robes. Regardez. C'est pour vous dire que dans le ciel, il y aura plusieurs robes. Regardez. Alors, c'est pendant la grande tribulation où Dieu, dans sa miséricorde, permet que l'évangile soit quand même prêché. Mais aujourd'hui, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Dans la dispensation de la grâce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement croire que Jésus-Christ a versé son sang et qu'il est mort pour nos péchés et que pour que cela soit cohérent, il faut passer par ce que la Bible appelle la repentance, c'est-à-dire mais il y a un profond regret d'avoir offensé Dieu. Comment je suis un pécheur? Bien sûr, je suis né pécheur, mais je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Je veux chanter ce cantique peut-être pour terminer. Pardon, Seigneur, pardon, je suis un pécheur et j'ai besoin d'être sauvé. Regardez dans l'Apocalypse, ça ne sera plus le pardon par grâce, ça sera le pardon par le prix de sa vie. Ça sera terrible. Et regardez comment seront habillés ceux qui se convertiront pendant la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire qu'il y aura un réveil après l'enlèvement. C'est avec ce verset que je le dis. Vous voyez, une grande foule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jean a pu compter 144 000 évangélistes juste avant, et là, il ne peut pas compter la foule. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches. Au verset 13, Jean, il se demande d'où ça vient, parce que pour lui, les chrétiens, ils sont au ciel, donc il ne comprend pas. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Eux, ils n'ont que des robes blanches. Vous avez remarqué la différence ? Les chrétiens qui se sont préparés avant, ils sont revêtus de robes blanches de fin lin, pur, éclatant. Ce n'est pas la même chose. Et quand vous regardez encore dans Ézéchiel, il y a des robes brodées de fin lin, etc. Dans le ciel, on va avoir de belles robes. Mais il y a des robes éclatantes et il y a des robes blanches. Enfin, ce n'est pas grave. Il s'agit que les gens soient sauvés, d'accord ? Mais enfin, il vaut mieux partir avant la colère de Dieu. Le fils prodigue, il représente les gens qui réfléchissent avant que la porte ne se ferme. Et quelle grâce que cet après-midi encore, Dieu peut dire, apportez des belles robes, apportez-les. Mettez ces robes qui sont la robe qu'on obtient par la sanctification. Vous connaissez cette parabole également, où Jésus invite tout le monde, le maître de la maison invite tout le monde, et puis il se trouve un homme au festin des noces, qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Et on lui dit, mais comment t'es entré? C'est une image, une parabole que le Seigneur Jésus utilise pour expliquer qu'il y a plein de gens qui rentrent dans le royaume de Dieu sans passer par la repentance. Ils entrent dans l'église, mais ils ne se repentent pas. C'est pour ça que des fois on voit des chrétiens, on dit, mais qu'est-ce que c'est ce chrétien? Quel témoignage il a? Vous n'avez jamais vu ça, vous? Mais ça peut arriver, ça vous arrivera, c'est sûr. Des gens qui sont chrétiens, ils continuent à mentir. Mais c'est pas grave si vous ne connaissez pas. Mais il y a des gens qui entrent dans l'église, ils prennent le baptême, mais ils continuent à vivre dans le péché. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette image-là. Il y a des gens, on ne rentre pas dans l'église n'importe comment. Cette robe blanche, elle est le résultat d'une profonde repentance. Ce fils prodigue, eh bien, il représente ceux qui viennent et qui sont sérieux. Il ne dit pas, oui, je suis parti parce que tu as vu le caractère d'ailleurs du frère aîné. T'as vu comment il est? D'ailleurs, regarde, il n'a pas beaucoup changé depuis que je suis parti. En plus, ça ne devait pas être la grande joie entre eux, parce que quand même, il aurait pu se réjouir aussi, même s'il pensait certaines choses. Parce que des fois, on peut être en conflit avec quelqu'un. Il aurait dû dire, mais moi, je veux rester dans la maison du Seigneur. Quel que soit le comportement des frères, moi, je veux rester dans la maison du Seigneur. Je veux rester à ma place. Je veux faire ta volonté. Je veux cette robe blanche. Je veux ces sandales. Je veux cet anneau qui parle de la communion avec Dieu également. Hein? Quel bonheur de savoir qu'on a un Dieu qui ne nous repousse pas. Il ne l'a pas repoussé. Écoute, t'es parti. Tu m'as pris la moitié de l'héritage. Eh bien, écoute, c'est ton problème maintenant. Non, non, non. Le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris dans ses bras et il l'a
embrasser. Je ne sais pas si vous avez envie de faire une expérience avec Dieu, mais je peux vous assurer que vous pouvez la faire. Ou en refaire une autre. Ou continuer à refaire d'autres expériences. Et à dire, Seigneur, moi j'ai besoin d'être touché par ta grâce. J'ai besoin d'une victoire. J'ai besoin d'une guérison. Est-ce que Dieu peut guérir maintenant à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire, mais oui, je suis mort, j'ai tout abandonné, j'ai tout perdu, je veux refaire une expérience avec toi. Moi, je bénis Dieu que pendant la grande tribulation, il y a quand même malgré tout des gens qui pourront se repentir. Mais ça ne sera plus par la croix, ça sera au péril de leur vie. Les gens qui voudront être sauvés pendant la grande tribulation, il faudra qu'ils meurent, qu'ils le payent de leur vie. Ça fait mal au cœur, hein ? Vous ne croyez pas qu'il vaut mieux... qu'il vaut mieux partir avec Jésus par grâce. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cet après-midi, par grâce. Seigneur, je veux me jeter dans tes bras. Cette histoire, elle est merveilleuse. C'est vrai que le seul qui pouvait faire la tête, c'était le veau gras. Mais les autres, ils auraient dû tous se réjouir. C'est vrai quand même, bon. Mais enfin bon, le frère, il aurait dû se réjouir. Tout le monde aurait dû se réjouir dans cette affaire. Et cet après-midi, on devrait... tous se réjouir de dire « je peux aller au ciel, je veux aller au ciel, je veux me préparer ». Moi, j'aime le blanc et ça me va très bien. Je veux me préparer, partir avec tous les frères et sœurs. C'est sérieux cette affaire. C'est la parabole du fils prodigue. C'est une parabole où Jésus nous enseigne comment un homme qui a perdu, s'est reperdu, peut retrouver la grâce, la bénédiction, la nourriture spirituelle. Vous n'avez pas besoin de vous punir. Il y a une personne qui me disait, voilà, j'ai demandé pardon à Dieu, mais vous savez, je lui demande pardon tous les matins pour ce que j'ai fait. J'ai dit, mais vous l'avez demandé pardon une bonne fois pour toutes? Oui, mais c'est comme cette personne avec qui on avait offert quelque chose, elle venait tous les jours nous remercier, merci. J'ai dit, mais c'est bon, vous la donnez. Elle revenait tous les jours, merci, vraiment, vous m'avez... J'ai dit, mais on vous la donnez, c'est bon, une fois, ça suffit. Et la personne, elle doutait, voyez, de si on le lui avait vraiment donné. Mes frères et sœurs, si Dieu vous donne le pardon, il vous l'a donné. Si Dieu vous pardonne, il vous pardonne. C'est pas la peine de demander 52 fois pardon. Quand on demande pardon à Dieu, on est pardonné. Alléluia. On ferme les yeux. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi j'ai besoin de redécouvrir cette grâce, cette faveur, cette paix, ce pardon, cette nourriture. J'ai besoin de marcher avec assurance, j'ai besoin de sandales. S'il n'avait pas de souliers, il n'avait plus rien, il avait tout perdu. Je ne sais pas comment vous marchez, si vous marchez avec assurance. Je ne sais pas si vous avez cette alliance. Quand on se marie en France, dans plein de pays d'ailleurs, on met une alliance. C'est pour qu'on se souvienne tout le temps qu'on s'est engagé avec quelqu'un. Et cette alliance, c'est l'image aussi de s'être engagé avec Dieu. Et s'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut, moi je veux ces vêtements, je veux cette alliance, je veux marcher avec assurance, je veux être restauré, j'ai un Dieu qui m'accueille. Oui, même si la colère de Dieu vient, ce qu'on a vu ce matin, la porte est ouverte. Et il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi j'ai besoin d'une victoire, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai un problème avec telle dépendance, j'ai un problème avec mon caractère, j'ai un problème de lien, j'ai un problème de n'importe quoi. Seigneur, libère-moi. Alléluia. Et pendant que notre frère John William va rechanter ce cantique, pardon, c'est un très beau cœur ce cantique. Il est merveilleux ce cantique. Ça veut dire qu'on peut être pardonné. Pardon, Seigneur. Peut-être quelqu'un dit, moi j'ai besoin. Il vous sera fait selon votre confiance. Ayez confiance. Dieu ne vous accuse pas. Dieu vous délivre. Dieu vous attend les bras ouverts encore cet après-midi pour vous revêtir de fin lin éclatant et pur. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Père, notre Dieu, nous voulons que cette réunion soit la réunion que tu veux qu'elle soit. Tu sais comment parler à quelqu'un. Tu sais libérer les gens. Tu sais leur redonner ce que toi seul es capable de donner. Cette paix, ce pardon, cette délivrance, cette faveur, cette joie du salut. Seigneur, combien nous pouvons te bénir, parce que cet après-midi, nous voulons vraiment repartir, repus, Seigneur, de ta présence, restaurer, apaiser. Tu as promis aux hommes qui viendraient à toi et qui se chargeraient de ton joug d'obtenir le repos. Que ton nom soit béni, Seigneur.
Amen. Nous restons recueillis. C'est un moment important parce que c'est un moment où on peut se lever comme ce fils prodigue et dire, c'est pas une question de lever et de venir devant. Ne venez pas pour me faire plaisir. Venez en disant, j'ai une victoire à prendre, Seigneur, touche-moi. Moi, s'il n'y a personne, ça ne me dérange pas. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, mais il faut absolument que je sois délivré, il faut absolument que je sois guéri, eh bien, croyez que Dieu va le faire. Que le nom du Seigneur soit béni.
Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon. Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur. Garder rancune, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur. Mauvaise, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.